Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Clara Isée, on est à la Belle Électrique quelques heures avant le concert que tu vas donner tout à l'heure à Grenoble. Donc tu es chanteuse, poétesse, écrivaine. Dans ton roman Mise à feu, il y a un personnage qui vient de Grenoble et qui a une place un peu particulière. Donc on voulait te demander pour commencer la question locale. Est-ce que tu es déjà venue jouer à Grenoble ? Est-ce que tu as un lien avec cette ville ?
Non, je suis jamais venue jouer à Grenoble et j'ai pas de lien particulier avec cette ville, si ce n'est que c'est une ville qui m'a toujours fait un peu rêver parce qu'il y a la montagne, parce que du coup c'est une ville qui dans mon imaginaire reste assez sauvage à un endroit, voilà, mais c'est tout.
Et alors ? Pas trop déçue
Non, pas du tout.
Agréablement surprise de la...
Non, on est ravis quand on est arrivé ici. En plus, bon, là, en tournée, c'est vrai qu'on passe notre vie dans les salles, donc souvent on voit pas beaucoup, beaucoup de l'extérieur. Mais là, on a des loges qui nous... avec une belle vue sur... sur l'extérieur et puis on s'est promené un peu, donc ça a l'air trop cool.
Tout à fait, sur les saumons qui sont enneigés, yes. Il a neigé il y a 2 jours, donc oui. T'as de la chance. Du coup, tu viens pour le concert ce soir, jouer ton album Océanonox.
Yes.
Et le premier album, on va dire, la première sortie a eu lieu en 2023. Mm-hmm. Et en 2024, t'as sorti 5 autres titres.
Ouais. Ouais.
Alors, on se demandait, 5 autres titres, c'est presque, ça pourrait presque faire l'objet d'un nouvel EP.
Ouais.
Pourquoi est-ce que t'as choisi de quand même en faire la suite de cet album ?
Parce que pour moi, c'est vraiment des morceaux qui datent de la même période. Et en fait, Océanonox est sorti, la première version, j'avais vraiment envie que ce soit un album assez court parce que je trouvais qu'il y avait une assez grande densité dans les arrangements, dans les textes, etc. Et je voulais que, dans l'idéal, que les gens puissent vraiment l'écouter de bout en bout sans que ce soit indigeste, quoi. Et du coup, j'ai retiré des morceaux qui étaient vraiment importants pour moi, dont La Louve, L'Océan, qui sont pour moi vraiment des morceaux un peu clés dans mon parcours. Et en même temps, pour moi, c'était une réédition parce qu'on est reparti en studio, on les a retravaillés, on les a réenregistrés, mais en termes de composition et d'écriture, ils font vraiment partie de cette période-là, de cette traversée-là, de ces questionnements-là, de ce qu'on fait avec l'océan de nuit qui nous habite et comment on traverse cette nuit-là, comment on essaye d'inventer des imaginaires collectifs désirables, quoi. Et voilà, ouais, ça fait partie du même voyage, je dirais.
Et du coup, est-ce que ce voyage-là, d'une certaine manière, vient se terminer avec ces 5 titres pour en commencer d'autres, donc du coup sur des thèmes qui...
Ouais, absolument. Pour moi, enfin après, le voyage, il se termine jamais, il continue à... Je pense qu'un album, quand on le compose, il continue à nous habiter, à nous modifier. Là, en ce moment, on est dans la tournée, donc en fait, on n'arrête pas de jouer ces morceaux-là tous les soirs. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de trop beau dans le métier qu'on fait, mais aussi, il y a plein de choses que je comprends des morceaux que maintenant. Mais après, c'est sûr que voilà, je suis en train de composer la suite et que à partir d'avril, j'irai en studio et que j'ai hâte de ce qui arrive parce que je sens que c'est une autre histoire, quoi. C'est un autre chapitre.
Et du coup, il y a plusieurs titres sur Océanonox qu'on peut qualifier de, enfin, en tout cas que moi j'ai entendu comme politique,
ouais.
Pyromane et Les Rois du Désespoir aussi qui m'a fait beaucoup penser à ça. Et je me suis demandé si c'était des thèmes que tu voulais plus développer, si en fait tu as une écriture qui est assez imagée, évocatrice, où tu dis souvent qu'en fait les gens s'approprient à leur manière. Mm. Est-ce que des fois ça peut venir te frustrer avec un besoin de nommer de manière plus précisément, ou est-ce que ça te convient bien cette forme générale
Pour moi, c'est la traduction poétique ou la forme la plus poétique, elle est très précise, elle est pas floue du tout. Ce que je dis, c'est pas que les gens ils peuvent en faire n'importe quoi, c'est juste que je trouve que le format de la chanson et le format en règle générale d'une œuvre, moi ce qui m'intéresse dans une œuvre, c'est que je trouve que quand elle est réussie, elle dépasse la personne qui l'a faite, et que je trouve que les chansons que je trouve les plus réussies, c'est des chansons où en fait que d'une certaine manière j'ai écrite en semi-conscience et qu'il y a des choses que tout ce que j'ai pu ciseler le plus précisément possible, travailler, je l'ai fait, j'ai travaillé comme une dingue sur cet album, mais je crois que les chansons les plus intéressantes, c'est les chansons où il y a une part de moi qui n'est pas compris ce que j'ai fait, et je crois que dans ces cas-là, je pense que ça nous dépasse, et je pense que ça nous dépasse aussi pour une raison, j'espère en tout cas un peu assez intéressante à mon sens, qui est que je crois qu'on est écrit aussi. Je crois qu'on dit toujours j'écris, mais je crois qu'on est écrit et qu'on est traversé aussi par les voix de par nos proches, par les voix de l'époque aussi, par les angoisses qu'on partage, par un inconscient collectif, et que je pense que les chansons les plus intéressantes, c'est celles qui sont traversées par ça et où d'un coup notre voix intime ou personnelle, elle s'ouvre vers quelque chose qui est plus intéressant, quoi, plus large que notre petite personne, je crois.
Mais alors du coup, quand on a ta renommée et quand on a ton audience et qu'il y a un contexte de montée de l'extrême droite, est-ce qu'il y a des moments où tu as cette tension avec l'envie d'intervenir, de prendre la parole dans les interviews ?
Tout le temps. Moi, je sais que j'ai... En ce moment, c'est une période, mais ça fait des années, mais particulièrement, c'est vrai en ce moment où on se demande à quoi ça sert de faire de la musique, à quoi ça sert d'écrire de la poésie, à quoi ça sert de... Après, je crois très profondément que, alors du côté de la musique, que c'est pour moi une des choses les plus politiques qu'il y a dans le fait de faire des concerts et dans la politique et dans la musique, c'est dans la politique, dans la musique, c'est le fait de créer un espace dans lequel on vit une expérience collective heureuse et épanouissante et sans demander aux gens qui y sont. Et je pense que pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans cette chose étrange qu'est un concert, et que on peut y travailler à plein de façons différentes, parce qu'évidemment qu'il faut aussi créer des espaces et des façons que les concerts soient le plus accessibles possible, et tout ce qui est parfois pas du tout le cas. Mais en tout cas, dans l'idée d'un concert, il y a quand même cette idée que on t'accueille peu importe qui t'es, et qu'on fait une expérience collective heureuse peu importe qui t'es. Et voilà, je pense que ça, c'est intime, c'est très politique, et je crois aussi que voilà, que nous on est là pour injecter du sensible, pour injecter de l'empathie, pour injecter aussi des imaginaires possibles de futurs désirables, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que c'est un acte politique de croire aujourd'hui et d'avoir de l'espoir. Enfin, moi j'ai un rapport particulier à l'espoir, je pense que parfois c'est une notion qui me fait peur quand elle est liée à l'espoir comme fuite ou comme façon de se rassurer par rapport à un présent qui est insupportable. Je pense que il faut le voir comme... je pense que l'espoir, il est intéressant quand il est vraiment au présent, c'est-à-dire essayer de se dire qu'est-ce qui, dans cette situation-là, peut générer de l'intéressant, du beau, du bien, du... Exactement, quand c'est pas une résignation, quoi. Mais je pense que, ouais, qu'on a quelque part un... que ça demande du courage et que ça demande... qu'il y a une certaine éthique, je crois, qui est celle d'essayer d'imaginer des futurs plus joyeux que ceux que, pour le moment, on imagine.
Et dans cet album, c'est vrai que des thèmes un peu qui ressortent ou qui ont été beaucoup cités autour de tes textes, bon, il y avait les promesses de l'aube un peu, de nouvelles aubes, il y a le passé, le rapport à la disparition, la perte, l'amour. Mais je crois que moi, je l'ai beaucoup écouté comme on écouterait une confidence d'une sœur ou d'une amie. Et on t'entend que tu t'adresses à des femmes. Tu t'adresses à ta mère, à une amoureuse, à des femmes aussi anonymes, qui sont Je pense notamment une chanson dont maintenant je n'ai plus évidemment souveraine, tout à fait, le nom. Et du coup, je me demandais si c'était ton intention au départ. Enfin, moi, je l'ai sorti très présent, cette intention de sororité. Ouais.
Non, en toute honnêteté.
Non, et parce que c'est
intéressant, parce que en fait, je me suis rendu compte que moi, j'écris des chansons. J'ai l'impression qu'en gros, il y a deux. Pour le moment, il y a soit les chansons qui sont vraiment au jeu, qui sont très intimes et où souvent je parle de choses très quotidiennes de ma vie et parfois du rapport au manque, du rapport à la rupture, du rapport à la douceur dans Douce. Et puis il y a les chansons qui sont plus au nous et qui, ou au vous, comme Pyromane, et où je pense que c'est plus des questions plus générales, quoi. Mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de chansons où je m'adresse à des femmes, mais je l'ai pas du tout conscientisé, et que je pense que c'est de toute façon des sujets qui sont, je me considère comme ultra féministe, et je pense que c'est des sujets qui m'habitent de toute façon. C'est presque malgré moi, je voudrais faire un album qui ne parle pas de mon rapport à la condition de ce que c'est que d'être une femme dans cette société là j'y arriverai pas, parce que c'est quelque chose ça fait partie des choses qui me mettent en colère, du coup forcément ça vient dans les textes, mais j'ai l'impression que c'est des chansons en tout cas qui s'adressent à tous de manière non genrée, quoi. Enfin, par exemple, on m'a beaucoup dit que c'était, parfois on me dit que c'est un album féminin, ou que c'est un album où on me ramène à une espèce d'essentialisation de la femme qui, moi, m'exaspère, par exemple, et où j'ai l'impression que même Douce, par exemple, c'est une chanson qui, j'ai été hyper émue que ça touche aussi des mecs, et que en fait c'est un rapport à ce qu'on fait de la colère et comment on essaye de trouver un lieu pour que la colère se dise, pour qu'elle se transforme et qu'elle ne devienne pas violence. Et en fait, ça, je pense que ça parle et aux femmes et aux hommes. Et après, j'écris depuis mon endroit, qui est un endroit de femme, donc évidemment, enfin en tout cas d'un endroit où j'ai été élevée en tant que femme, donc évidemment que je parle de ce que c'est que l'injonction à la douceur, de ce que c'est que cette injonction à la douceur, comment parfois elle nous sépare complètement de la douceur réelle, parce qu'en fait on nous dit que c'est une injonction à la douceur, mais c'est juste une injonction à la soumission. Et que moi, par exemple, je sais que cette chanson, elle m'a aidée à me réconcilier avec ma douceur et me dire, mais en fait, la douceur, c'est extraordinaire, c'est une puissance dingue. Et en fait, elle peut être complètement alliée avec la colère, elle peut être alliée avec la souffrance, elle peut être alliée avec l'indignation, elle peut être c'est quelque chose de très beau quand on sait la nommer pour de vrai, quoi.
Je dévore tes lèvres quand tu parles dans la nuit. Je dévore tes lèvres et te regarde à l'infini. Je me tiens immobile, si je bouge tu t'enfuis. Tes yeux fauves et la lune y voient l'oiseau de paradis. Tu poses tes missiles et dans la planque où je t'écris. Dans mon sexe la terre et toi panthère dans ma nuit. La louve cavale à minuit. Pour se s'emballe, elle gémit. Quand la course s'emballe, elle gémit. Je me tiens immobile, si je bouge tu t'enfuis. Des années de galère où je te veux à l'infini. Approche tes yeux lynx et sens le soleil de midi. Enfonce tes yeux sphinx, lâche pourri, chasser la pluie. Tiens-toi à l'encolure, je cabre face à l'ennemi. Mon prince mordu d'azur chassera la louve à minuit. Entends partout l'orage qui pousse l'aube dans le bois. Regarde, la nuit se trouble et brise la mer en éclats. La louve cavale à minuit. Quand la course s'emballe, se s'emballe, elle gémit. Qui pousse l'aube dans le bois. Regarde, la nuit se trouble et brise la mer en éclats. Je fredonne les notes que tu portes dedans toi. Mon doigt contre tes lèvres et je sens ta peau qui en doit. Ton sexe dans ma paume, j'enfonce ma bouche lilas. Ta cambrure cavale et voilà la louve aux abois. Tu sais, je suis farouche, mais je me suis faite au combat. Dans tes bras je me couche, mais c'est maintenant que j'aboie. La louve cavale à minuit. se s'envole. Elle gémit, la louve cavale à minuit. Quand la course s'emballe, elle gémit. Quand la course s'emballe.
L'écriture, elle est hyper présente forcément. Enfin, c'est vraiment des chansons à texte que tu chantes. Mais on l'a dit tout à l'heure, tu écris aussi, tu as écrit un roman, tu as écrit un recueil de poésie là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Comment est-ce que tu navigues entre ces trois écritures ? Est-ce qu'elles s'imposent à toi ? Est-ce qu'elles représentent des choses différentes pour toi ? Elles n'agissent pas au même endroit ?
Elles sont, c'est marrant parce qu'elles sont à des endroits différents pour moi, dans le sens où... Le truc le plus, par exemple, entre l'écriture d'une chanson et l'écriture d'un poème, l'écriture d'une chanson, je commence toujours par la musique. Donc je me mets au piano ou à la guitare et je joue. Et souvent, il y a des bribes de texte qui viennent. Et ensuite, une fois que j'ai vraiment terminé la structure musicale, je retravaille beaucoup le texte. Et en fait, c'est globalement ma façon de faire parce que je me suis rendu compte que les chansons que je trouve intéressantes, c'est celles où d'un coup, il y a de la place qui a été laissée dans la parole pour que la musique vienne, quoi, enfin, s'infiltre. Exactement. Et qu'à l'inverse, il y a eu de la place laissée dans la musique pour que la parole s'infiltre. Et que du coup, cette alchimie-là, ça fait ce qu'on appelle vraiment la chanson, quoi. Alors que j'ai l'impression que dans l'écriture poétique, ce qui me trigger aussi, et ce pourquoi j'y retourne, et ce qui m'angoisse aussi, c'est que c'est vraiment un dialogue avec le silence. Et que j'ai l'impression que dans le rapport à la poésie, il y a cette espèce de tentative répétée de dévoiler, quoi, ou de comprendre une part de ce qui se cache dans le silence, dans ce qui vibre de façon innommée autour de nous, quoi. Et du coup, je dirais que c'est quand même deux rapports assez différents pour moi. Mais dernièrement, par exemple, je suis en train de composer pour le prochain album, du coup, et je me suis dit... mais tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'essayais vraiment d'écrire le texte comme j'écrirais un poème et ensuite de le mettre en musique. Et là, du coup, je l'ai fait sur deux des nouveaux titres et ça change énormément mon rapport à la composition, c'est marrant. Donc en fait, c'est pas si divisé que ça, mais...
Et qu'est-ce qui vient le changer ?
Bah, Je dirais que, en fait, par exemple, dans ce que j'ai écrit dernièrement, du coup, je me suis laissée porter uniquement par la rythmique. Et par la rythmique d'un texte et que et du coup je suis pas en fait la musique il y a tellement d'informations émotionnelles dans la musique, c'est déjà tellement fort, c'est souvent pour ça aussi d'ailleurs que j'aime écrire la musique et puis poser le texte après, c'est que c'est tellement fort ce qui se passe, enfin ça, il y a tellement d'informations dans la musique que du coup souvent je trouve qu'il faut venir calibrer la parole selon cette information-là de la musique, sinon je trouve que rapidement ça devient lourd ou ça devient kitsch ou ça devient et là c'est intéressant du coup parce que le fait de commencer par la parole, d'écrire et presque de la slammer un peu, enfin du coup de le penser dans un rapport qui est plus rythmique, ça fait que quand je pose la musique, en tout cas là sur les deux dernières que j'ai composées, je suis obligée de composer des choses musicalement beaucoup plus simples parce que le texte est très dense et que du coup pour qu'il soit entendu et pour qu'il ait une fonction, il faut que la musique s'efface un peu. Mais du coup c'est intéressant, ça donne autre chose, quoi. C'est...
Et ce roman, ça a été... c'est quoi l'histoire du roman, alors ?
Alors, le roman...
Qui est d'ailleurs, en fait, finalement, l'œuvre qui est sortie la première,
ouais,
non ?
Absolument. Il y a eu mon premier EP, quand même, qui est sorti juste avant. Mais disons, un premier vrai objet, c'était... En tout cas, il est sorti avant l'album. Et ce roman, c'était... Moi, j'écris depuis que je suis gamine, beaucoup de la poésie, mais aussi des formes plus romanesques, quoi. Et en fait, c'est marrant, Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur la relation fusionnelle entre un frère et une sœur, et notamment sur les pactes qui se nouent dans l'enfance, les pactes secrets, et comment au bout d'un moment, si on ne redéfinit pas ces pactes qui sont souvent non formulés, on n'arrive pas à grandir, quoi. Enfin, il y a un truc où on reste happé par l'enfance, et donc possiblement aussi par l'ombre de la folie. Et du coup, j'étais à la moitié de l'écriture du roman, mais je voulais vraiment juste l'écrire pour moi. Et en fait, c'est drôle, c'est par la musique, c'est une éditrice qui s'appelle Catherine Nabokov, que j'adore, qui m'a contactée en me disant, c'était par rapport au texte de l'EP, où elle m'avait dit, mais j'adore votre écriture, est-ce que par hasard vous écrivez aussi? Et j'ai dit, je suis en train d'écrire un roman, mais vraiment, je pense pas, c'est pour moi, quoi. Et voilà, puis en fait, on s'est rencontrés, j'ai adoré cette dame, et du coup, j'ai aussi eu vachement confiance dans son regard. Et du coup, on a proposé à Grasset, et Grasset a pris, et voilà.
Et du coup, qu'est-ce que c'est de naviguer entre ces expériences très différentes qu'est écrire, parce que tu t'en parlais, hein, c'est aussi un rapport à se confronter au silence, à se confronter à la solitude, un roman encore plus, j'imagine, c'est des heures seules attablées, et avec la musique qui est bien plus collective, ou en tout cas ça se compose, ça se pense peut-être de manière plus collective, il y a les concerts. Comment est-ce que, pareil, entre ces deux formes d'art hyper différentes, toi tu te retrouves, est-ce que les deux te sont nécessaires? Est-ce qu'il y a une forme de complémentarité dans tout ça?
Ouais. Pour moi, c'est super complémentaire parce que précisément, après, le roman, moi j'ai du mal à être seule en règle générale, donc du coup, écrire le roman, c'était un challenge. Mais en fait, c'était pas tellement un challenge parce que je crois que je me suis toujours démerdée dans ma vie pour écrire, même au milieu d'autres. Un peu partout où je peux et surtout pas trop toute seule. Mais justement, le roman m'a appris ça, c'est que j'ai quand même dû à un moment donné me retrouver vraiment seule pour le terminer. Et c'était en fait un moment magique. C'était le deuxième confinement, je me suis retrouvée. J'ai eu la chance de me casser en Italie sur une île et je me suis retrouvée là-bas et j'ai écrit pendant un mois et demi et j'ai vraiment terminé le roman à ce moment-là et c'était une expérience magique. Ça m'a offert ça aussi, ce roman, de découvrir que je pouvais être dans un rapport d'isolement qui n'était pas subi et qui était très fort, en fait.
À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé, que durant des années tu as foulé des pieds. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. J'ai perdu la joie de vivre, je l'ai laissé entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île, tes souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai perdu la joie de vivre. J'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île. Souvenir avec toi. Je...
quand tu composes de la musique, donc on sent que tu as une bonne connaissance de ce que font les musiciens qui jouent avec toi. Tu cites souvent ce qu'ils font en interview. Comment est-ce qu'un morceau peut évoluer avec tes musiciens? Est-ce qu'il y a du coup une manière d'intégrer leur façon de jouer à ce qui est produit ensuite? Comment est-ce que ça se joue?
Pour moi, c'est vraiment même crucial. Dans le sens où, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je compose au piano ou à la guitare, donc à la structure de la chanson. Et là, ce qu'on a fait, par exemple, avec Ambroise, parce qu'on a co-réalisé l'album avec Ambroise, donc on a pensé les arrangements ensemble. Et en fait, moi, je voulais vraiment, j'ai fait venir mes amis, quoi. Mes amis dans le sens où j'ai fait venir des personnes, je pense à Cédi qui joue le doudouk sur l'album, ou à Sari Khalife qui joue le violoncelle sur Douce, etc. Et je sais qu'à chaque fois, c'est des personnes que je suis allée chercher parce que leur son, souvent, beaucoup plus tôt dans ma vie, m'ont bouleversé et m'ont modifié. Enfin, Cédi, c'est un joueur de doudouk et de clarinette qui vient d'Azerbaïdjan. Il a un son, je ne sais pas comment expliquer, quand il joue du doudouk, il me fait pleurer, mais c'est instantané, quoi. Et je pense qu'il joue d'une manière, de façon délibérée, il est toujours légèrement sous la note. Il n'est pas notre façon, avec le doudouk, c'est très dur d'être d'une justesse.
Il y a des quarts de ton.
Déjà, c'est des musiques où il y a des quarts de ton, mais en plus, même, il y a une variation avec la justesse, qui est vraiment délibérée, pensée, etc. Et que je trouve dingue. Et donc, du coup, souvent, ce que je fais, c'est que, en tout cas, là, avec Ambroise, on avait préparé des maquettes où on avait vraiment dessiné le truc le plus précisément possible, quand même. Et en fait, quand on a fait venir Sari ou Cédi, je leur donne la structure, je leur donne l'idée, et ensuite on fait une prise où ils font le truc tel que c'est écrit. Et puis après, je leur dis, vous faites ce que vous voulez, vous êtes complètement free. Et souvent après, on dit, ah là, ce passage, c'était vraiment trop beau, garde ça. Et moi, après, avec les musiciens, je sais que j'adore, j'ai une formation classique enfant, mais moi, j'adore parler en images. C'est vraiment... parce que j'ai l'impression qu'avec ce dialogue-là, ça me permet en fait de ne pas être trop précise, c'est-à-dire de ne pas leur donner ce qui est dans ma tête, et en même temps de leur donner une couleur, de leur donner une ambiance, de parler à un imaginaire. Et souvent, c'est trop intéressant parce que quand c'est des personnes merveilleuses, et ben, elles proposent des trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait nous dans la tête, donc c'est génial, quoi.
Donc c'est beaucoup des musiciens que t'as connus en jouant avec eux, elle et eux, avec qui t'as improvisé, jamais.
Exactement. Ouais. En fait, j'ai beaucoup organisé ce que j'appelle des soirées musique depuis que j'ai 18 ans, et où on se réunissait à la maison toute la nuit, et on invitait un peu tous les musiciens qu'on connaissait, et on jouait. Puis on continue à faire ça de temps en temps quand on n'est pas en tournée non-stop. Et beaucoup des idées de l'album viennent de là. Parce qu'aussi, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de la musique grecque traditionnelle ou de la musique turque, de la musique aussi iranienne, libanaise. Donc en fait, ça a fait des espèces de mélanges aussi qui, je pense, au fur et à mesure, ont imprégné mon univers de façon assez forte, quoi.
On se demandait si, parce qu'on parle de sonorité nouvelle aussi, parce que ton album, elle en est quand même empreinte. Est-ce que toi, en ce moment, il y a un peu une espèce de découverte musicale que tu pourrais nous partager
Il y en a plein.
Alors, allez, trois, max.
C'est quoi mes albums obsession là, en ce moment? Il y avait l'album, mais bon, là, c'est comme tout le monde, mais l'album de Bad Bunny. Je sais pas si vous avez écouté, c'est le dernier album de Bad Bunny, mais il faut aimer le reggaeton, mais c'est démentiel. Genre vraiment, l'album est fou. En fait, il a fait vraiment revenir tous les instruments de la salsa portoricaine dedans. Et du coup, ça passe de passages hyper, hyper reggaeton à l'ancienne à des passages de full bend de salsa à l'ancienne qui partent en impro pendant genre 4 minutes et demie. Franchement, c'est un délire et c'est un des trucs les plus streamés actuellement. Je trouve ça génial que ce soit une telle réussite genre commerciale et que ce soit aussi bien. Qu'est-ce que c'était l'autre album? J'ai poncé encore dernièrement Le Cri du Caire, je sais pas si vous voyez, qui a un album sublime qui s'appelle Pearls for Orphans.
Le saxophoniste avec qui tu joues.
Exactement,
ce soir,
Peter, il est dedans, et c'est avec un poète égyptien qui s'appelle Abdul Amin Yahoui et qui slame, du coup les textes sont à tomber aussi, enfin faut les traduire, mais ils sont trop beaux. Et c'est avec Truffaz aussi, avec un violoncelliste incroyable, Karsten. L'autre, lequel? Ah oui, Doechii, l'album, le dernier album de Doechii, qui est vraiment genre une rappeuse incroyable américaine. C'était quoi d'autre ? Qu'est-ce que je l'ai fait trop chier dans le bus ? Bon voilà, ça fait trois albums du moment.
Des conseils de lecture sinon ?
Oui, qu'est-ce qui m'a bouleversée dernièrement ? Dernièrement, j'ai beaucoup lu et j'ai pas été beaucoup renversée. Je crois que le dernier bouquin qui m'a vraiment achevé, c'était Mahmoud ou la montée des eaux, d'un auteur qui s'appelle Antoine Waters, qui est un auteur belge. C'est un sublime, sublime, sublime texte. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire comme vraiment le... Bon après sinon il y a les poétesses qui m'accompagnent toujours quoi, Ingeborg Bachmann, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, la base.
Et en parlant de poèmes, on se demandait si tu accepterais de nous laisser avec un poème talisman, vu que visiblement tu aimes bien les considérer aussi comme ça, sachant que cette émission va probablement être diffusée pendant la journée du 8 mars.
Ok, très bien.
Est-ce que tu aurais envie de nous laisser avec... Alors, j'ai ton recueil en plus avec moi.
Trop bien.
Comme par hasard.
Bien sûr.
Voilà, de choisir quelque chose.
Ah, si c'est le 8 mars, j'en ai un qui est pas mal pour ce jour-là. Mais il est tout court.
Mais la quantité ne fait pas la qualité.
Absolument. Alors.
Poème 43. Les hommes tordus sont des hommes tristes. Aucune tristesse ne pourrait me retirer du corps le désir obstiné de vivre dans un monde où le courage est une façon d'honorer l'existence.
Let's start the story backwards. I'm dead, she's dead, just another Black Lives Matter. And if I die today, I die a bastard. TikTok rapper, part-time YouTube actor. Pop my shit in a muscle relaxer. Intergalactor, worldwide capper. I dirty shoes and put them back in the box. Like voila, the Looney Tunes back in stock. I'm Little Miss Thinkapoo, Little Miss who are you? Little loose screw, fur hat with the kangaroo. Who would've knew, who'da thunk it? Who'da got the ball from Big Moo and who'da dunk? If this relationship was left up to you, you'd have sunk it. Talking out my ass, and that's my assumption. But that's my conjunction. I'm running back to you like a fat kid at luncheon. Please, I'd swallow my pride before I choke on my greed. Show you my cards before I gamble my seed. Fuck are we talking about? What's the discussion? Sharing memes with the chairman over some English muffins. I'm just shooting the shit over some pretty production. And it's still not enough for something. Needs more something, something. Who's that creeping through my rear view? 30-something. I'm not nervous, I'm just concerned for us. What if I die a Taurus? What if I die on purpose? What if it wasn't even worth it? What if I'm walking alone? What if I choke on a Slurpee? What if I make it big? What if my car exploded while I'm casually pumping the gas and smoking a cig? What if my life was loaded? Loaded pile of shit. Whole lot of pussy and a whole lot of dick. Whole lot of bills and a whole lot of kids.
Ouais mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !